Étudiez les langues avec podcast, un service de l'École Club Migros. La vie de Marie, un podcast au niveau A2, B1. Pour tout matériel supplémentaire, consultez notre site web www.podclub.ch.
Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast La vie de Marie. Aujourd'hui, nous sommes le 16 septembre et je suis heureuse de vous retrouver. Un sujet d'actualité d'abord, le franc suisse. Et puis, puisque dans la vie, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi le plaisir. Je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue il n'y a pas si longtemps et qui m'a donné de fortes émotions. L'argent est un sujet un peu tabou. Et vous aurez remarqué que peu de gens avouent combien ils gagnent. Car peut-être ne veulent-ils pas mettre mal à l'aise. Femmes, hommes, étrangers, diplômés, ces critères justifient-ils une différence de salaire? En France, dans les entreprises de l'État, c'est-à-dire dans le public, il y a des grilles de salaire. C'est l'âge, les études et l'expérience qui déterminent ce que l'on gagne. Dans le secteur privé, par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas de règles. Sinon que le salaire minimal est de 7,06 euros net de l'heure, soit environ 1070,76 euros net par mois pour un emploi à plein temps. Plus de la moitié des Français gagnent moins de 1500 euros par mois. Et pourtant, on dit que le salaire moyen est de 2000 euros. Cela laisse imaginer les inégalités qu'il y a entre les salariés. Tout dépend du secteur d'emploi dans lequel on travaille. C'est drôle, non? Le professeur qui apprend à lire et à écrire à vos enfants, ou l'infirmière qui soigne votre grand-mère, gagne moins que l'employé de banque qui s'occupe de votre argent. Le médecin qui refait vos seins gagne plus que celui qui vous soigne d'un cancer. Il y a des logiques dans ce monde qui sont pour moi assez incohérentes. Et puis, tout dépend aussi du pays dans lequel on travaille. Le frontalier, celui qui tous les jours traverse la frontière suisse, gagne, pour un travail égal à son collègue resté du côté français, 2 à 3 fois plus. Bon, il ne le fait pas exprès. Imaginez, vous habitez à 2 pas de la frontière suisse. Que faites-vous? Au lieu de prendre tous les matins la direction de la France, vous traversez la frontière. C'est plutôt écologique, non? Bien sûr, ça c'est l'argument un peu hypocrite. L'avantage financier est le moins cité, mais le plus encourageant. Surtout en ce moment où le franc est si fort. D'ailleurs, les frontaliers viennent parfois de très loin pour se rendre dans l'Eldorado helvétique. Puisque les frontaliers ont un niveau de vie supérieur aux salariés français, le niveau de vie dans ces régions frontalières est aussi plus élevé que dans d'autres régions de France. Les artisans ont des tarifs supérieurs. Les locations et les maisons sont plus onéreuses. Les assurances privées ont des cotisations plus élevées. Même dans les magasins, les produits sont plus chers qu'ailleurs. De plus, être frontalier, c'est être un grand ami des impôts français. Vous êtes en quelque sorte un sponsor important. La forte valeur actuelle du franc suisse peut sembler être à l'avantage des frontaliers, mais pas pour tous. En effet, j'ai lu que certaines entreprises suisses ont commencé à payer le salaire de leurs salariés français en euros, ce qui signifie pour ces derniers une baisse de salaire de 30%. D'autres entreprises ont aussi exigé 2 heures de travail en plus par semaine. Soit les salariés acceptaient, soit ils démissionnaient, c'est-à-dire qu'ils quittaient leur poste. Cette mesure est-elle juste? S'il s'agit pour un patron de sauver son entreprise, je peux le comprendre. Mais s'il s'agit de faire du profit, que dire? Sinon que nous sommes tous prisonniers de notre société de consommation. Bon, voyons le bon côté des choses. Les parkings des supermarchés sont à nouveau remplis de voitures immatriculées en Suisse. En allant dans un magasin de carrelage, je me suis improvisée traductrice, car la patronne, dont le niveau d'allemand devait correspondre à mon niveau de chinois, c'est-à-dire nul, avait bien du mal à parler affaire au client suisse, qui lui n'avait pas dû être bien attentif à l'école pendant ses leçons de français. L'homme qui venait de Zug, c'est-à-dire à 150 km de là où il était, souhaitait acheter une grosse quantité de carrelage et était prêt à payer le gîte et le couvert à l'artisan français qui viendrait lui faire des travaux. La chute de l'euro a donc fait marcher les commerces français et a fait faire de bonnes affaires aux consommateurs suisses. Ces vacances, j'ai fait une chose incroyable. J'ai survolé le lac d'Annecy avec mon parapente. Je suis partie avec 4 copains à la recherche de soleil et de pente pour y décoller avec nos parapentes. Cela faisait un petit temps que je n'avais plus volé et j'étais à la fois un peu anxieuse et excitée. Nous voilà donc partis en minibus. Nous sommes passés par Grand-Villard, Les Diablerets, Villars, Villeneuve pour arriver à Annecy. Y êtes-vous déjà allé? C'est très joli, surtout une fois que vous êtes au-dessus du lac. Mais que de monde au décollage! On se serait cru aux caisses d'un grand magasin le jour des soldes, chacun attendant son tour, mais essayant tout de même d'arriver au plus vite à la caisse. Sauf qu'il y avait aussi l'appréhension, la petite peur du décollage. Non, en fait, il y a une pression incroyable. Il faut être rapide et surtout ne pas rater son décollage. Pour une question de sécurité d'abord, mais aussi car tout le monde vous regarde. Il y a 2 façons de décoller, face à la voile ou dos à la voile. Quand il y a du vent, il est mieux de décoller face à sa voile. Et une fois qu'elle est en l'air, c'est le pilote qui se retourne et qui se met face à la pente. Et après quelques pas, vous êtes en l'air. Cela paraît simple, et c'est aussi simplement que j'ai décollé. Quand on vole à Annecy, il y a un grand tour à faire. Allez prendre de la hauteur le long des roches, un peu plus loin, sur la droite du décollage, au-dessus de la forêt de Celier. Et puis, traverser le lac et reprendre en face, sur les crêtes, du côté de la forêt du Blondet. Les traverser et rejoindre l'atterrissage au bout du lac. Moi, je vole sans variomètre, sans cet appareil qui fait bip bip quand vous êtes en train de prendre de l'altitude et qui vous dit la hauteur à laquelle vous êtes. Bien sûr, c'est pratique, surtout pour repérer les thermiques. Mais voilà, je vole sans. Oh, je n'avais pas besoin d'un bip bip pour me sentir monter, puis descendre, puis remonter, puis redescendre, tant je me suis fait secouer. Oh, je ne faisais pas la fière sous ma voile, même qu'elle m'a fait plusieurs petites fermetures. Et puis tout à coup, j'étais haut, vraiment haut. Moi, je voulais traverser le lac. Oui, mais avais-je assez de hauteur? Alors imaginez-moi, peut-être à 1005, 1008 ou 2000 mètres dans le ciel, toute seule. Pas d'autre voile autour de moi que j'aurais pu suivre. Toute seule en train de me poser cette question essentielle. Traverser ou non? Je n'avais pas envie de faire la une des journaux. Rendez-vous compte, je commence à traverser le lac, perds de la hauteur, me retrouve à atterrir sur un bateau, si j'ai de la chance, ou encore sur la route le long du lac. Il fallait prendre une décision rapidement. Moi qui ai horreur de prendre des décisions, cela a été un moment horrible. Et puis, j'ai regardé mes pieds. Oui, je les ai mis l'un devant l'autre. Et derrière eux, au second plan, il y avait le lac. Et comme la longueur de mes deux pieds était supérieure à celle du lac, j'en ai conclu que j'avais assez de hauteur. Oh, mes amis, quelle aventure! Je traverse, ouf, une chose de faite. Mais voilà que j'étais bien basse. Je me dirige vers l'autre montagne, et là, oup, je suis aspirée vers le haut. Mais la crête que je dois traverser est plus haute que moi. Je dois m'approcher du versant, mais pas trop. Au plus près de la forêt, c'est là qu'on monte le mieux. Mais c'est aussi là que le risque de rester coincé dans un arbre est le plus grand. Je lutte sous ma voile. Je mets de la pression pour monter le long de la montagne. Oh non, que vient faire cette ligne à haute tension sur ma route? Il va falloir que je la survole. Il faut absolument que j'arrive à prendre plus de hauteur. Je m'approche encore un peu plus des arbres, mets encore un peu plus de tension dans ma voile, sens le vent qui me pousse. Allez, encore un peu plus de hauteur. Je me fais balancer, je monte, je redescends. Allez, encore un peu. Je retiens mon souffle pendant que je survole la ligne à haute tension. Et voilà que j'atteins le sommet de la crête et que je peux passer de l'autre côté de la montagne. Et moi, j'ai hurlé de joie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons dans 2 semaines sur www.podclub.ch où nous parlerons de courses de vaches et d'équipement d'un chez-soi. En attendant de nous retrouver, profitez de la vie, faites-vous plaisir, achetez-vous du carrelage, valsez avec les nuages. Mais prenez soin de vous. À bientôt.
Vous trouvez la version écrite de cet épisode sous www.podclub.ch. À propos, dans les écoles club, vous pouvez commencer un cours de langue à tout moment. Consultez notre site web et n'hésitez pas à vous inscrire. Nos adresses de site web sont les suivantes. www.clubschule.ch, www.ecoleclub.ch et www.scuolaclub.ch.